Oui, mon lieutenant. Alors, à l'attaque.
Ok, donc aujourd'hui on est le 27 mai, c'est donc une émission de la tactique d'attaque et on reçoit donc Christian Hainaut. Et donc le thème c'est le micro-lycée à Reims et l'école en général. Alors petite introduction rapide, donc l'école en France est un débat sans fin. Tout autant vilipendée que louée, elle apparaît comme une institution fondamentale de la République. Dans la mesure où son rôle est d'assurer donc une certaine éducation morale d'abord, une instruction nécessaire à l'exercice de la citoyenneté, une instruction nécessaire à l'entrée de la vie active et dans la vie professionnelle. Mais ses fonctions sont souvent entachées de dysfonctionnements importants. Donc ces derniers semblent venir non pas peut-être de l'école, mais des contradictions qu'elle doit gérer et qui semblent souvent insurmontables. Donc la première contradiction, par exemple, donc en prônant l'égalité des chances et la méritocratie, on sait bien que l'école ne peut produire que des inégalités par définition. La seconde, donc difficile de concilier l'instruction, donc transmission d'un savoir fondé sur les programmes, et l'éducation, c'est-à-dire privilégier le développement de la personnalité de l'enfant, travailler à son épanouissement au sein de la communauté des hommes, et donc œuvrer à l'apprentissage du lien social. Donc cette contradiction est souvent réduite à un débat excessivement réducteur, donc très réducteur, donc entre les pédagogues et les républicains. Et face à ces dysfonctionnements, se sont créées d'autres voies, d'autres pensées, d'autres relations avec les élèves, d'autres pédagogies et d'autres lieux. Donc tel est le but de cette émission, donc de cerner un petit peu un autre lieu, tel le micro-lycée. Et on a le plaisir de recevoir un des principaux acteurs de celui-ci, à qui je vais laisser la parole donc, pour se présenter.
Christian Hainaut, je vais commencer par... Je suis professeur de sciences industrielles de l'ingénieur et tout ce que je vais dire ici est lié à la conviction que j'ai acquise au travers d'une expérience professionnelle de quasiment 40 ans. Mais elle n'engage pas, ma parole n'engage pas l'institution, d'autant moins que je suis aujourd'hui retraité et que je peux donc porter librement l'ensemble du discours qui correspond à ce en quoi je crois qu'on peut proposer un autre lycée. Hein, plus le temps passe et plus j'ai envie de répondre à la question dessine-moi un lycée, hein, puisque je vais moi parler du lycée, hein, et pas de l'école en général. Le premier degré et le collège sont des espaces qui probablement appellent des réponses différentes, mais au moins pour le lycée, j'ai une expérience qui me permet, je crois, aujourd'hui, en ayant été à la création du micro-lycée de Reims en 2013, en ayant été son animateur, son pilote pendant 10 ans, et en ayant exercé des missions auprès de la DGESCO, auprès du ministère de l'Éducation nationale, pour accompagner les structures de retour à l'école telles les micro-lycées sur le territoire national pendant 7 ans.
Est-ce que le micro-lycée de Reims est lié avec les expériences qui ont eu lieu, je crois que c'est à La Rochelle, avec les Cohn-Bendit.
Avec
Cohn-Bendit, Dani Cohn-Bendit.
Alors, le lycée autogéré.
Oui. Lycée autogéré, pardon.
Alors, il existe à la fois les micro-lycées. Les micro-lycées sont des structures de retour à l'école. Elle participe, le micro-lycée de Reims d'ailleurs est adhérent de la FESPI, de la Fédération des établissements scolaires publics innovants, qui réunit des établissements expérimentaux et innovants. Mais les structures de retour à l'école ont une place un peu particulière dans cet ensemble des établissements innovants expérimentaux, pour une raison qui est assez simple. Ces structures de retour à l'école innovent parce que c'est nécessaire pour permettre à des jeunes de revenir en formation, alors que les lycées innovants ou expérimentaux innovent ou expérimentent pour tenter de préfigurer un lycée différent qui pourrait émerger, ce qui fait une différence. Hein. Même s'il y a des points communs, même s'il y a une culture commune pour partie entre tous ces établissements, il y a quand même une différence assez notable de ce point de vue-là. Donc là, je pense que vous faites référence au lycée autogéré de Saint-Nazaire, hein, et puis de celui de Paris, ce sont les deux lycées autogérés qui existent sur le territoire. Donc, il y a à la fois une part de la culture de ces établissements innovants, expérimentaux, dans laquelle on a puisé un certain nombre d'éléments. Je serais tenté de dire que les structures d'autour à l'école, telles le micro-lycée, ont puisé à trois sources. Alors, celle des expérimentations d'autogestion des années 70, hein, pour le coup, mais aussi toutes celles des établissements innovants ou des expériences de l'éducation nouvelle de façon beaucoup plus générale, qui va bien au-delà, hein, des structures autogérées. Et puis dans l'expérience de toutes les structures qui ont pu être créées après 81 et après la création des missions locales et de toutes ces dispositifs, structures, stages de remise à niveau, de réinsertion, etc. Donc il y a trois éléments, hein, dans lesquels on a puisé pour essayer de construire. Et puis comme ces structures, les structures autour à l'école, elles sont nées il y a 20 ans, hein. Les premières sont nées. La première est née à Grenoble avec le CLEPT, Collège et Lycée Élitaire pour tous. La seconde est née en même temps à Senart, avec le micro-lycée de Senart. Puis ensuite, ça s'est développé très régulièrement jusqu'à aujourd'hui où on a 95 structures de retour à l'école qui sont distribuées sur le territoire, qui sont des structures. Et du coup, on peut glisser sur la définition de ce qu'est un micro-lycée. Hein, c'est une structure qui va accueillir des jeunes qui sont totalement sortis du système éducatif et qui y reviennent et qui ont besoin d'être accompagnés dans une formation diplômante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un SAS, il ne s'agit pas d'un stage, il ne s'agit pas d'un dispositif qui va essayer de réparer quelque chose pour ensuite réinjecter avant l'examen. Non, ce sont des jeunes pour lesquels on considère que la rupture est suffisamment forte pour qu'il soit nécessaire de gagner de gagner une bataille avec eux, c'est donc d'aller jusqu'à l'examen. Donc ces structures sont toutes diplômantes, c'est ce qui les caractérise.
Oui, on a créé vraiment un lieu pour eux. Le lieu est vraiment fait pour eux, en fait. C'est pas un lieu de transition. Non, c'est super.
C'est un lieu pour eux et on va jusqu'à l'examen. Donc quand on est sur les micro-lycées, on va jusqu'au baccalauréat, général, technologique ou professionnel, hein, selon l'offre. Et quand on est aujourd'hui sur les micro-collèges, on va jusqu'au brevet ou jusqu'au CFG.
Top.
Alors je suppose qu'il y a une définition institutionnelle des décrocheurs. Tout le monde ne peut pas aller au micro-lycée. Alors, ça se définit comment, donc, un décrocheur ?
Alors, il y a plusieurs définitions des décrocheurs, selon les instances, selon les structures. Celle qui a été utilisée pour définir la cible de ces structures de retour à l'école, c'est 6 mois d'interruption complète de la scolarité avec sortie des listes. Hein, de scolarité. Ça veut dire que si on n'est pas normalement, si on est encore inscrit dans un lycée, même si on n'y va plus, on peut pas accéder à ces structures de retour à l'école. Cette règle a été fixée en vue d'éviter qu'on ait des structures qui soient occupées trop largement par des publics qui sont pas bien au lycée, mais pour lesquels on considère que le lycée doit s'adapter, doit changer et doit trouver des solutions nouvelles pour permettre de les accompagner.
Ce qui n'existe pas.
C'est là pour le coup, je vous dis ce que l'institution installe,
oui,
hein,
comme
intention. Pour le coup, il y a quand même une raison. Il y a toujours même un caractère raisonnable à cette règle-là. C'est que si on y accueille dans ces structures de retour à l'école tous ceux qui sont pas bien, si on pas bien dans les lycées, on risque d'avoir plus de micro-lycées que de lycées.
Oui, c'est vrai.
Et pour le coup, ces micro-lycées, je le dis tout de suite, hein, pour un certain nombre et ceux qui sont les plus anciens sont des établissements ou des structures qui ont un coût, hein, en coût en personnel enseignant notamment, ou en fonctionnement, qui est un peu plus important que celui d'un lycée classique. Les micro-lycées plus récents, et c'est le cas de celui de Reims, hein, ont un coût. Alors dans cette institution, en parlant H sur E, ça veut dire nombre d'heures d'enseignement divisé par le nombre d'élèves. Ces structures, le micro-lycée de Reims a un H sur E qui est exactement le même que celui d'un lycée classique. Ça veut dire qu'un élève qui est au micro-lycée ne coûte pas plus cher ne coûte pas plus cher qu'un élève qui est dans un lycée classique. Mais on ne peut pas multiplier ces structures à souhait, parce que pour les faire fonctionner, il faut constituer des équipes très volontaires et très engagées, et que, en fait, le vrai frein à la multiplication de ce type d'initiative est plutôt positionné à cet endroit-là.
Ah oui, parce que ça marche. Des enseignants peuvent demander d'aller dans cette structure.
Dans cette structure, il n'y a que des enseignants volontaires. Exclusivement, oui. Des enseignants volontaires.
Et ça marche, volontaire.
Exclusivement volontaire. Et d'ailleurs, les tentatives qui ont été faites de structures de retour à l'école avec des enseignants non volontaires ont échoué. Tout échoué. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens qui s'engagent dans ces structures de retour à l'école sont des gens qui sont en général très professionnellement et humainement très engagés et qui souvent ont déjà buté dans les murs de ce qui était possible dans le lycée de façon plus générale et qui trouvent là un espace pour déployer des initiatives qui leur semblent correspondre davantage à leurs convictions et aux besoins des jeunes. Et donc voilà, ce ne sont que des collègues volontaires qui sont ou nommés sur des postes complets ou qui participent au projet sur une partie de leur service. Tout dépend là des situations. Les structures les plus anciennes étaient essentiellement constituées de collègues qui étaient à temps complet sur les structures. Les structures plus récentes, et c'est le cas de celui de Reims, disposent d'une part de collègues qui sont à temps plein, sur Reims, pour 140 jeunes accueillis à Reims. Il y a 140 jeunes accueillis dans la structure de retour à l'école à Reims. Pour 140 jeunes, on a 5 temps pleins. Et le reste, c'est un ensemble de collègues qui assurent entre un tiers-temps et un mi-temps, pour l'essentiel, de leur service sur le micro-lycée, avec une part de décharge dans leur service initial ou une part d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, selon les situations et selon les souhaits.
Alors, je suppose que vous avez fait des études assez complètes sur les causes du décrochage. Est-ce qu'il y a des causes
multifactorielles.
Certainement multifactorielles, mais il y a peut-être des causes principales et des causes secondaires.
Alors, quand on analyse, quand on cherche à identifier les causes du décrochage, d'abord, il y a deux concepts qu'il faut séparer. Enfin, souvent, ce qu'on va récupérer quand le jeune nous dit pourquoi il a décroché, ou quand son environnement nous dit pourquoi il a décroché, c'est ce qu'on appelle des motifs. Mais on se rend bien compte très très vite, au travers des études qui sont faites, que les motifs ne sont pas les déterminants du décrochage. C'est qu'en fait, ils peuvent être plus ou moins proches des déterminants, plus ou moins alimentés par les déterminants, mais les déterminants, eux, qui sont ceux qui vont être identifiés par des chercheurs, sociologues, dans l'analyse de situations particulières, sont systématiquement couplés, groupés, croisés. Donc il n'y a que du multifactoriel dans le décrochage. Il n'y a quasiment pas de décrochage monofactoriel. Il y a toujours plusieurs choses qui vont venir se percuter pour provoquer le décrochage. Et ces causes, alors on parle de causes internes, de causes externes. Quand on dit interne, c'est interne à l'institution scolaire ou externe à l'institution scolaire. Quand on va parler de l'interne, on va parler d'une part de ce qui relève du structurel, de l'offre qui est faite, de l'organisation de l'école, qui peut être l'une des causes du décrochage, enfin qui peut participer au décrochage, au processus de décrochage. On parle donc du coup de ces causes structurelles et puis après des éléments relationnels, des difficultés relationnelles que le jeune peut rencontrer, tant dans les relations avec ses pairs qu'avec les adultes qui encadrent dans l'établissement. Et puis dans les causes externes, on évoque, externe, interne, c'est drôle de formule, mais c'est comme ça que dans quelques études ils sont pointés, sont les deux autres caractéristiques, c'est le caractéristique propre du jeune, ses pathologies, ses situations, son histoire, les drames auxquels il a été confronté, les traumatismes qu'il a vécu, et puis son environnement, l'environnement dans lequel auquel il est confronté à l'extérieur de l'établissement. C'est au travers de ces causes internes et externes, au travers de ces causes structurelles, relationnelles à l'intérieur, à l'extérieur, des difficultés personnelles et des caractéristiques de l'environnement qu'on va avoir des facteurs qui vont se croiser. Et d'ailleurs, on parle de moins en moins de causes, même d'ailleurs du décrochage, décrochage, mais on parle de facteurs participants au décrochage dans toutes les études qui sont faites pour voilà, et on a des facteurs qui vont se croiser, se cumuler et qui vont à un moment donné provoquer le décrochage ou pas, sachant que le décrochage là aussi non seulement il est jamais monofactoriel mais en plus il est jamais immédiat, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est souvent un processus long qui va trouver ses sources avec des premiers déterminants qui vont apparaître parfois à l'école maternelle hein, ou parfois dans la première partie de la scolarité et qui vont, avec d'autres éléments, conduire à l'interruption de la scolarité à un moment ou à un autre.
Et dans ce que vous appelez les facteurs structurels internes, un peu plus précisément, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit par exemple, on peut en citer un parce qu'on peut du coup illustrer l'une des solutions qui est mise en œuvre dans les structures de retour à l'école. Dans les structures de retour à l'école, il y a on refuse toute séparation entre ce que d'habitude dans l'école on appelle le pédagogique et l'éducatif. Hein. Ce qui se traduit en France, mais quasiment qu'en France d'ailleurs au monde, par l'existence de ces CPE, de ces conseillers principaux d'éducation, qui vont avoir vocation à gérer la vie scolaire, tandis que les enseignants, très paradoxalement, n'auraient pas à gérer la vie scolaire. D'ailleurs, l'usage du terme pédagogique en France est très, très, très étonnant. Hein. Quand on parle en France de l'activité pédagogique, on parle de l'enseignement. Or, en fait, si on remonte à la source et à l'origine de ce qu'est la pédagogie, le pédagogue grec, ce n'est pas celui qui enseignait. Hein, c'était l'esclave qui emmenait le fils du maître à l'école, qui choisissait les maîtres et qui choisissait les parcours. La pédagogie, ça consiste à amener vers l'école, à amener vers les savoirs, à accompagner ensuite le retour au monde. Ça ne consiste pas à transmettre les savoirs. Et en France, on a fait un drôle de glissement sur ce terme. Et aujourd'hui, on désigne comme pédagogue celui qui est enseignant. Alors qu'en fait, pour l'essentiel, il n'est ni évalué, ni... il ne dispose pas d'une commande qui relève véritablement de la pédagogie qui viserait à amener à l'école ou ramener de l'école. Et donc cette caractéristique qui vise à séparer le suivi finalement de la scolarité de l'activité d'enseignement à proprement parler est l'une des causes, l'un des déterminants structurels qui peut provoquer Marie-Cécile Bloch, qui était la fondatrice du collège et lycée Élitaire pour tous à Grenoble, disait très très souvent, elle l'a dit d'ailleurs dans ses écrits et dans la thèse qu'elle a ensuite partagée, c'est que à chaque fois qu'on séparait ces éléments-là, hein, finalement l'accompagnement personnalisé, le suivi scolaire, y compris l'accompagnement avec une dimension très personnelle, quand on séparait ça de l'activité d'enseignement et de transmission de la connaissance, on crée des interstices par lesquels les jeunes qui sont fragilisés allaient pouvoir justement s'échapper et décrocher. Et donc voilà, pour illustrer hein, l'une des caractéristiques structurelles de l'école qui peut participer, alors il y en a d'autres, hein, il y en a bien d'autres hein, dans les causes structurelles, mais qui vont croiser les causes relationnelles. Moi je tricite très souvent les deux erreurs que fait l'école française, sans doute d'autres, mais celle que je connais le mieux, c'est évidemment celle à laquelle j'ai participé. La première, c'est de considérer que quand un jeune n'est pas là, il est absent, et que s'il est absent, c'est qu'il ne veut pas être là, et que l'essentiel des jeunes qui ne sont pas là et dans ces structures autour de l'école, on ne considère pas qu'il y a des absences. Il n'y a pas d'absence. Il y a des jeunes qui sont empêchés. Il n'y a pas des jeunes absents, il y a des jeunes empêchés. Et on considère que parfois, il y a des empêchements indicibles qui, pour autant, sont de véritables empêchements et que, en admettant même qu'on se trompe parfois en prenant pour un empêchement ce qui est un échappement, de toute façon, d'abord, ça n'aurait pas beaucoup de conséquences négatives, alors que le contraire a des conséquences dramatiques quand on a un réel empêchement qui est considéré comme une volonté de ne pas venir ou comme relâchement, là, évidemment, ce sera des conséquences terribles. Et puis, la deuxième qui est associée à celle-là, hein, c'est l'autre confusion que fait notre institution scolaire, c'est de confondre tout le temps défaillance et faute. Toute défaillance est considérée comme une faute. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que si on veut bousiller tous ceux qui sont fragilisés ou tous ceux qui sont un peu vulnérables, on n'a qu'à continuer comme ça, à considérer qu'une défaillance est une faute. Être en défaut, être défaillant, ça n'est pas être en faute. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des causes structurelles. Alors, il y a une dimension qui est liée aux relations, c'est-à-dire à la posture des enseignants, hein, qui quand même tient fort à ça, hein, cette idée. Hein, celui qui n'est pas là ou celui qui est défaillant, il est en faute. Hein.
Faute d'orthographe. Hein, les fautes d'orthographe.
Oui, voilà, enfin, c'est vrai, y compris dans tout début. Et pour la question de la présence ou de l'absence, ça prend une forme très institutionnelle, puisque comme on inscrit l'obligation d'assiduité en référence à un emploi du temps distribué au début d'année et qu'on l'inscrit dans le règlement intérieur, ça veut dire qu'effectivement, celui qui n'est pas là est bien en faute. On regarde un règlement que tout le monde a voté. Et ça, c'est terrifiant. Il y a plusieurs façons d'échapper à ça. Ou alors, on peut installer cette idée de la défaillance et peut-être la nommer dans nos règlements intérieurs. Et puis, sans la confondre avec la faute, il y a des éléments pour lesquels le vocable faute ne pose pas problème. Quand effectivement on a un certain nombre d'actes qui sont intentionnels dont on peut considérer qu'ils sont a priori intentionnels et qui ont pour conséquence de porter préjudice à autrui, là on est dans une situation qui n'a rien à voir. Mais l'absence, par exemple, l'indisponibilité à l'écoute, l'indisponibilité au travail, ça, pour le coup, par définition, ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas d'influence, et ça ne porte préjudice à personne d'autre qu'au jeune lui-même. Et donc l'idée de le traiter comme une faute est complètement contre-productif. Si on veut faire une non-école, on n'a qu'à continuer comme ça.
Enfant, je m'accompagnais bien, j'avais une lumière solide. Je passais des pleurs au rire sans me morfondre à souffrir. Sans trop douter, j'étais très vite d'accord. Avec mon intérieur, pas de torture du plus fort. Enfant, je m'accompagnais bien et je n'avais pas peur d'être seul. J'avais juste peur de la mort, de l'infini, du sous-sol. Mais à tout ça, je trouvais des phares. Et je sais pas si je parlais à Dieu, mais son écoute et ses réponses étaient très loin d'être hasardeuses. Car je m'accompagnais bien, je m'accompagnais très bien. Pour moi, c'était pas loin, suffisait de tendre la main. Car je m'accompagnais bien, je m'accompagnais très bien. Pour moi, c'était pas loin. Enfant, je m'accompagnais, j'avais l'imagination prenante. Un ballon et un mur, pour moi, c'était le Stade de France. À corps perdu dans la chambre, je commentais chaque rebondissement. Des remontées fabuleuses, des émotions étourdissantes. Enfant, je m'accompagnais, même confronté à la peine. Même confronté au grillage ou à l'empaillage de mes antennes. Bien sûr qu'il y avait des clashs, mais de tout ça, tu dormais vite. Du moins, c'est ce que je croyais, une porte se fermait. J'ouvrais une vitre, car je m'accompagnais bien. Je m'accompagnais très bien. Pour moi, c'était pas loin, suffisait de tendre la main, car je m'accompagnais bien, je m'accompagnais très bien. Pour moi, c'était pas loin. Alors que s'est-il passé? C'est le trou noir quand j'y repense. Peut-être que j'ai trop arrêté de jouer, ou peut-être que j'ai durci mon enfance. Ouais, peu à peu, ça s'est fermé. En classe de compète nationale, à force de colère familiale, j'ai des cailloux aux amygdales. Et tu sais, y'a tellement d'espace en moi, j'ai des vertiges intérieurs. Y a bien des aides qui me parlent, mais je crois que j'ai perdu le décodeur. Alors j'interprète et prive, mais pas de quoi être répondu, pas de quoi être écouté. Écoutez, je me suis perdu de vue. Alors que s'est-il passé? Quand sais-tu, toi qui écoutes? Je questionne un temps celui qu'entend, qu'a le cœur assez grand pour mon doute. Je me suis perdu de contenance, de confiance intérieure. À force de dire mauvais diseur aux anges qui poussent au creux du cœur. Tu sais, je crois que mes anges y sont choqués de la loi de la jungle. Ça hurle au lion perpétuellement, ou ça se perche aux arbres, le nez au ciel là-bas. C'est tellement mieux, on m'assure même qu'il n'y a que ça de réel. Mais c'est bien sûr terre ferme, j'ai besoin d'être entièrement belle. Car je m'accompagnais bien, moi, même très bien. Pour moi, c'était pas loin, suffisait de tendre la main. Car je m'accompagnais bien, très bien. Pour moi, c'était pas loin. Alors je voudrais te retrouver, toi l'acrobate qui pleure dans l'ombre. Je voudrais goûter tes larmes et par amour les prendre en compte. Je voudrais te consoler, quand t'es trop marché sur la tête. Je voudrais retrouver la piste et les yeux brillants qui vont avec. Ouais, je voudrais te retrouver, tu sais, j'ai plus que jamais besoin de toi. J'ai besoin que les mois dans le mois retrouvent leur place et leur voix. Je voudrais réouvrir mes frontières, sortir mes anges du mitard, réunir sous même bannière l'intégralité de mes parts. Ouais, je voudrais te retrouver, toi l'enfant qui jouait des heures, un aplomb faramineux, une course que me freinait que le cœur. Te dire t'as le droit de jouer, t'es beau. Moi j'en connais qui aiment te voir, j'en connais même qui pourraient te payer pour que tu viennes jouer dans leur square. Tellement t'explose, tu fais sourire les ventres, tu fais sourire les autres, les nôtres et tout ce qu'il y a entre. Alors j'aimerais t'avoir auprès de moi pour équilibrer mes parts adultes. J'aimerais pouvoir te dire je t'aime avant que ma tête ne me dise chut. Ouais, t'avoir auprès de moi pour mes parts adultes, te dire je t'aime avant que ma tête ne me dise. Car je m'accompagnais bien, je m'accompagnais très bien. Pour moi, c'était pas loin, suffisait de tendre la main. Car je m'accompagnais bien, très bien.
Voilà, donc ces deux questions qui sont des éléments structurels de l'école qui vont participer. Alors, seuls, ils suffisent pas à provoquer le décrochage. Si on regardait l'école telle qu'elle est, on pourrait considérer, dans tous ces défauts structurels, on pourrait considérer qu'il n'y a aucune raison pour que les jeunes y aillent. et qu'elle fonctionne. Donc il y a quelque chose d'assez miraculeux dans le fait que tout de même, pour une grosse partie de la population, eh ben, ça marche quand même. Mais voilà, sitôt qu'il y a des fragilités, sitôt qu'il y a un vécu traumatique, sitôt qu'il y a d'autres difficultés qui vont se croiser avec ces causes structurelles, on va arriver très très vite au décrochage.
Et ben moi, je vais rebondir sur ça, parce qu'on a parlé un peu des causes du décrochage, et à quel moment on va autoriser ou conseiller ou prendre en compte que la personne peut réintégrer ? À quel moment on se dit, ben, tiens, le décrochage peut-être touche à sa fin, on peut peut-être tenter de le réaccrocher. À quel moment on se dit, ben voilà, il est temps de... Moi, je fais partie des personnes qui ont arrêté à un moment donné, et à un moment donné, j'ai dit non, en fait, je ne ferai rien pendant tant que ça ne va pas. Et ça m'a pris un an et demi avant de dire, ouais, maintenant, je peux. Est-ce que ce temps-là est pris en compte ? Comment il est pris en compte ?
Les structures de retour à l'école accueillent des jeunes, et là, c'est des limites que l'institution a posées, hein, ces structures, qui ont, au moment où elles arrivent, au moins 6 mois d'interruption scolaire, et qui ont entre 16 et 25 ans. Donc un jeune qui arrête, quel que soit le moment où il a arrêté, s'il a entre 16 et 25 ans, et que son projet est compatible avec l'offre de formation de la structure, bien entendu, il peut réintégrer. Hein, okay. Il n'y a pas de limite qui soit fixée de cette façon-là. Il n'y a pas de temps. Alors, il y a un grand débat entre les animateurs et responsables de structure autour de l'école, c'est est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un temps suffisamment long pour que la rescolarisation puisse fonctionner.
C'est
un débat compliqué dans lequel on peut, quand on regarde les travaux qui sont faits, je pense notamment aux travaux de Valérie Melin, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus, elle constate qu'effectivement, quand il y a un temps suffisamment long, hein, qui est 6 mois, un an et demi, d'interruption, le raccrochage se fait dans des conditions qui sont souvent plus nettes et plus fortes et meilleures, parce qu'il y a, bah, y a effectivement un temps de maturation, un temps de reconstitution, etc. Pour autant, cet exercice qu'on pourrait faire, qui consiste à dire, bah, alors du coup, il n'y a qu'à pas le prendre tout de suite, il n'y a qu'à attendre plus longtemps, a des conséquences lourdes. C'est que dans ceux qui reviennent et pour lesquels ça marche après un an et demi, bah, il n'y a plus ceux qu'on aura perdus et qu'on n'aura pas retrouvés.
Les plus fragiles, en fait.
Ouais. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre, oui, pour un certain nombre qui vont être suffisamment costauds, personnellement, hein, pour mûrir et construire, et bah oui, une interruption longue, ça peut être une très, très bonne idée. Pour ceux qui sont beaucoup plus fragiles, ou qui peuvent être écartés très, très vite, hein, de toute forme d'insertion sociale, c'est extrêmement délicat et c'est dangereux. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Je serais prêt à entendre dire, il faudrait analyser les situations une par une, hein, pour faire le bon choix.
Est-il nécessaire qu'un jeune, donc à partir de 16 ans, hein, qui souhaite venir dans un micro-lycée, est-il nécessaire qu'il ait un projet ? Et qu'entend-on par projet ? Un projet de formation ? Un projet professionnel ?
L'institution aimerait bien qu'on réponde oui à cette question. dans la réalité, les jeunes sont accueillis... Là, je vais décliner sur les modalités mises en œuvre à Reims. Hein, quand on accueille un jeune qui veut être scolarisé, alors il est orienté vers le micro-lycée ou parce qu'il a découvert des informations en ligne, ou parce qu'il a des copains qui y sont venus, ou parce que le bouche à oreille a fonctionné, ou parce qu'il a été accompagné par la mission locale qui a identifié un souhait ou la pertinence d'un retour en scolarité sous une forme adaptée au micro-lycée. On vérifie effectivement qu'il a un projet. Mais toute la question est de savoir ce qu'on met derrière avoir un projet. Vous savez, moi, j'ai toujours été choqué, presque traumatisé par cette... Sur les documents, hein, qui concernent le handicap, on a une petite page qu'il faut remplir qui s'appelle « Projet de vie ». Vivre, déjà. Hein. Donc, ces jeunes, quand ils ont un projet, qu'ils viennent nous voir et que... parfois, ils nous disent qu'ils veulent être ceci, qu'ils veulent être cela, qu'ils ont ça comme projet. Parfois, ils ont un projet relativement précis qui va les tirer. Parfois, ils ont un projet très vague, voire un projet qu'ils ont construit pour l'occasion, parce qu'ils savaient que l'offre de formation du micro-lycée, c'était celle-là. Et puis, parfois, ils ont un projet qui nous disent être... finalement, avoir le baccalauréat. Obtenir le baccalauréat parce qu'ils considèrent qu'ils en ont été privés. Hein, je dis très très souvent, on dit très très souvent dans les structures autour de l'école que ces jeunes ne demandent pas à être réparés, mais pour une bonne partie, ils demandent réparation. à l'institution pour ce qui s'est passé antérieurement. Et donc, oui, le projet d'avoir un baccalauréat, dit comme ça, évidemment, vous dites, mais pourquoi tu veux faire un baccalauréat ? Oui. La réalité, c'est que le jeune, il veut se projeter là-dedans, dans ce dont il a été, il veut obtenir ce dont il a été privé. Il veut réparer dans son parcours quelque chose pour lequel il a été mis en échec et pour lequel il y a eu de la souffrance constituée. On sous-estime très très largement ce qu'est la souffrance que vit un jeune qui est en train de décrocher et qui va vivre un parcours de décrochage. Quand on est décrocheur, c'est assez terrible. Hein. Tout ce qu'on nous, comme on n'est plus vraiment accroché, tout ce qu'on va produire comme effort va être insuffisant ou inadapté à la demande qui est faite. Ça va provoquer chez les enseignants et dans le corps d'encadrement, ça va provoquer une insatisfaction qui va être manifestée. Et donc, on va avoir des souffrances qui ensuite s'installent en miroir. Hein. Ce que je produis ne te va pas, ce que tu fais ne me va pas. Et la souffrance peut monter, on peut arriver à des catastrophes d'ailleurs, hein, avec des souffrances qui vont fonctionner en miroir. Alors là, c'est dans le cadre du décrochage, mais il y a plein d'autres situations scolaires dans lesquelles les souffrances en miroir vont être des processus qui peuvent détruire. Qui peuvent détruire les jeunes, qui peuvent aussi détruire les enseignants d'ailleurs, dans un ensemble de situations, tant ça peut prendre, et les parents bien entendu, tant ça peut prendre des dimensions comme celle-là. Donc oui, mais c'est un vrai projet que de vouloir obtenir réparation, d'avoir un baccalauréat, et c'est pour ça que ces structures ne disent pas « on va te réparer pour qu'ensuite tu puisses passer le baccalauréat ». Ces structures, le micro-lycée dit « donne-moi la main et je ne te lâcherai pas la main tant qu'on n'aura pas gagné la bataille ensemble ». Et parfois, on ne gagne pas la bataille qu'on avait prévue au départ. Parfois, on s'est mis d'accord pour se battre. On s'est battu autant qu'on le pouvait et on n'arrive pas à obtenir le baccalauréat ou avoir le baccalauréat qui nous permet de construire ce qu'on imaginait vouloir faire. Et dans ce cas-là, ces structures de retour à l'école ont une caractéristique dont je peux témoigner de cette caractéristique au travers d'un témoignage d'un jeune qui m'avait dit un jour, mais ce qui est bien au micro-lycée, c'est que quand on échoue, vous échouez avec nous. Et ça veut dire qu'effectivement, on ne lâche pas la main au moment où il y a un échec. Ça veut dire que jusqu'au bout, hein, on va considérer que l'échec est une étape et qu'on peut en faire quelque chose. Et on va avoir un regard qui va être différent, y compris quand il y a un échec. Échec d'ailleurs, qui n'est pas forcément un échec. Hein. Le décrochage, ce n'est pas forcément d'ailleurs quelque chose qui est un problème. Dans un certain nombre de parcours individuels, ce sont des étapes qui ont été utiles, nécessaires et qui ont permis de rebondir. Et voilà, en tout cas, on ne va pas regarder les choses comme ça et on va avoir une vision qui est... En tout cas, cette idée de « je te tiens la main et on va jusqu'où ?» Et ce qu'on tente quand même, hein, ce qu'on tente, c'est cette victoire. Alors, pourquoi le baccalauréat ? Pourquoi ? Alors, ça, dans certaines structures, c'est le CAP, mais pourquoi le baccalauréat ? Parce que dans notre pays, dans notre environnement, dans notre société, il y a un contenu symbolique énorme, colossal, hein, qui est attaché au baccalauréat, et que gagner cette bataille-là, du point de vue symbolique, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Le pari qu'on fait, c'est que ces jeunes, une fois qu'ils ont obtenu le baccalauréat avec nous, ils sont capables de dire d'abord que ce qu'on leur avait présenté comme quelque chose qu'ils pourraient pas atteindre, ils ont pu l'atteindre. Et ensuite, ils ont découvert autre chose, c'est qu'il existait des adultes qui pouvaient les accompagner, même lorsque tout le monde disait que ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, c'est quelque chose qui peut être reconstruit. Alors, il y a de la reconstruction de la confiance, hein, qui se joue là-dedans. Et la stratégie qu'on joue dans ces structures de retour à l'école, c'est de dire, d'abord, je te fais confiance inconditionnellement. Inconditionnellement, cette confiance inconditionnelle que je t'accorde va au bout d'un moment provoquer la possibilité pour que tu me fasses confiance à moi, puis peut-être à d'autres adultes, et peut-être un peu plus tard dans tes pairs, et peut-être un peu plus tard en toi-même. Hein.
Donc la réussite, l'obtention d'un diplôme pour certains. Ensuite, ils quittent le micro-lycée.
Ouais.
Vous savez ce qu'ils deviennent ? Ils restent en contact ?
Alors, ils restent en contact, ils restent en contact informel. Et ça, c'est des éléments à la fois qui nous font beaucoup plaisir parce qu'on a beaucoup de retours positifs, mais dont il faut se méfier parce que ceux qu'on revoit sont ceux qui ont un parcours positif. Parce que les jeunes qui se sont énormément engagés, qui savent quel a été notre engagement à leur côté aussi. Et bah, lorsqu'ils échouent, ils ne reviennent pas nous le voir pour nous dire, vous savez, tout ce qu'on a essayé ensemble, ça a foiré. Hein. Et donc, du coup, ceux-là, on ne les revoit pas. Donc, on ne peut s'appuyer pour raisonnablement analyser la situation que sur les études de cohorte, hein, que sur des suivis de cohorte quand ils sont organisés. Alors, il y en a eu plusieurs en région parisienne et on en a fait un sur le micro-lycée de Reims, de ces suivis de cohorte, qui donne les résultats à peu près convergents, quelle que soit la structure à laquelle on s'attache. Dans ces résultats, il y a 50% des jeunes qui vont sortir avec leur baccalauréat, qui vont avoir un parcours derrière qui ressemble au parcours de n'importe quel jeune. Il n'y a plus de différence. Il y a quelque chose qui a bien été réparé. Hein. Ils ont bien obtenu réparation, il y a eu une victoire symbolique, un gain en confiance, et donc ça va fonctionner. Pour cela, 50%. Puis pour les 50% qui suivent, eh ben on va avoir dans l'année qui suit un nouveau décrochage ou un nouvel incident ou de nouvelles ruptures qui vont survenir
hors de la structure.
Okay. On s'est dit longtemps qu'on avait un problème, c'est que évidemment il y a beaucoup d'étayage, il y a énormément d'étayage dans une structure comme celle-là, et on s'est dit que en théorie, hein, avant la sortie, il faudrait désétayer. Sauf que le moment où ils vont sortir, c'est le moment où ils vont passer le baccalauréat. C'est-à-dire le moment où la charge symbolique et anxieuse est la plus forte. Et donc, il est hors de question de désétayer à ce moment-là, évidemment. Donc, on ne désétait pas. Et on fait le pari que, on ne désétait pas. Et puis, on avait regardé avec le sociologue avec lequel on a travaillé, qu'on était quand même à 50% seulement pour lesquels il y avait... ces 50%, ils nous ont dit, non, il ne faut pas regarder maintenant. Il faut regarder à 18 mois. Parce qu'il faut aussi donner du temps à ce qui peut se jouer. Et on a regardé à 18 mois. Or, à 18 mois, ce qui se passe, c'est que les 50% qui ont un parcours normal continuent. Et dans les autres 50%, il y a à nouveau la moitié qui va reprendre un parcours qui n'était pas celui nécessairement du projet d'origine, mais qui va fonctionner. Mais à 18 mois. Ça veut dire qu'il y aura eu une année à nouveau de chaos. De chaos. Alors moi, j'ai appelé cette année, de façon très, très simpliste, hein, je l'ai appelé la réplique du chaos. Hein, ce sont des jeunes qui ont un chaos qui a caractérisé leur parcours individuel. Et il va y avoir une réplique du chaos au moment où, effectivement, ils sortent d'un taillage très fort. Mais la moitié vont ensuite avoir un parcours qui fonctionne. Alors, cela, pas forcément sous des modalités classiques d'études. C'est qu'on a, par exemple, un certain nombre de jeunes qui vont être très absents, mais qui vont réussir. Ou qui vont avoir des logiques très très, mais en tout cas qui réussissent. Et au bout du compte, ce qu'on constate, c'est que le parcours d'études supérieures pour ceux qui allaient sur les études supérieures, eh bien, il est réussi à hauteur de 75% du public qui aura été bachelier de ces structures. Et nous, on s'était dit au moment des résultats, d'indice des résultats. Ça veut dire qu'il y en a quand même 25% qui sont pour lesquels ça n'aura pas marché. Et les services de l'orientation, hein, nous ont répondu oui, comme dans tout le reste du public, en fait. Ouais. Hein. Ce qui veut dire qu'en fait, moyennant l'acceptation de cette réplique du chaos, on a des résultats en termes de poursuite qui sont les mêmes que ceux des autres. Et donc, en fait, finalement, on aura effectivement réparé ce qui s'est joué, sachant que là aussi, on a un exemple de la façon dont l'autre question qu'on traite, hein, la question du temps. Hein. La question du temps qui est, dans le système éducatif, toujours un temps contraint. Et dans une structure de retour à l'école, on en fait un temps ressource. Hein. On a des jeunes qui vont... On a cette année-là un jeune qui va sortir avec son baccalauréat et qui est inscrit depuis 7 ans au micro-lycée. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si on a réussi ce travail-là, si symboliquement la victoire est gagnée, si on a reconstruit, s'il a fallu plus de temps, et peut-être que cette année après pose pas plus de problèmes. Donc sachant que le temps en question, hein, on peut aussi l'analyser de façon très cynique, hein, j'allais dire très économique. Hein. On dit toujours, alors les études semblent diverger aujourd'hui sur les chiffres qu'on obtient, mais quand même, selon les études, un jeune qui est sorti de l'école sans diplôme va coûter, hein, c'est ce que disent les études, hein, va coûter, selon les études, entre 130 000 et 280 000 euros de plus qu'un jeune qui sera sorti avec un diplôme. Intéressant à regarder dans ces chiffres-là, ce qui est intéressant à regarder d'ailleurs, c'est le contenu, hein, de ce coût. Parce que moi, la première fois que je les ai lus, ces études, je me suis dit, ce coût doit être un coût en termes de RSA, de minima sociaux, et en fait, non. L'essentiel, enfin, la grosse majorité de ce coût-là est un coût santé, en fait. Avec les études, enfin les travaux, les commentaires des chercheurs qui sont extrêmement clairs. D'abord, ces jeunes qui sont sortis en diplôme sont précaires d'un point de vue économique. Et donc sont sujets à beaucoup plus de difficultés de santé, d'accès aux soins. On connaît bien quelle est la situation de l'accès aux soins. Et puis, d'autre part, ces jeunes qui sont sortis sans diplôme dans des conditions dégradées ont une image d'eux-mêmes qui est dégradée, donc prendront moins soin d'eux. Et donc on a en fait des choses qui vont jouer comme ça. Alors, si je reviens sur cette approche cynique du décrochage, 180 000 euros entre 130, 180 et puis 280, sachant qu'une année scolaire à l'institution, ça coûte entre 6 000 et 7 000 euros, vous voyez le nombre d'années qu'on peut faire avant d'avoir perdu de l'argent. Hein, Donc même d'un point de vue purement cynique et économique, de toute façon, le temps ne devrait jamais, jamais être considéré comme un élément de contrainte. Hein, dès lors qu'on va vers quelque chose, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de stocker pour ne pas avancer, mais dès lors qu'on avance, même si on avance très doucement, hein, on a toutes les raisons de prendre son temps.
J'ai une double question, si vous me permettez. Est-ce que le micro-lycée n'est pas ce que devrait être notre système éducatif actuel ? Et donc, la question qui va s'enchaîner, est-ce que notre structure actuelle de lycée d'enseignement, si on peut le dire, n'est pas une des causes du décrochage. Parce qu'on dit très jeune à tout le monde qu'il faut rentrer dans des cases comme ça pour faire tel travail à tel moment de sa vie et qu'en fait, ça nous met la pression très très tôt et que pour décrocher, je pense qu'il ne faut pas plus.
Oui, on peut dire que le lycée tel qu'il est constitué aujourd'hui contient un certain nombre d'éléments qui, du point de vue systémique, provoquent le décrochage. Mais en même temps, il y a des raisons à ça. Faut toujours se rappeler quel a été le rôle qu'a assigné au lycée français lorsqu'il a été constitué. Hein. Le lycée, l'école avait vocation d'abord à préparer des soldats pour défendre la nation et des ouvriers pour produire des richesses. Il ne faut jamais l'oublier. Et que donc, il reste quelque chose dans cette école. Parfois, d'ailleurs, c'est troublant, d'ailleurs. Il reste quelque chose dans cette école qui est parfois plus porté par les pratiques intégrées par les enseignants eux-mêmes que par l'institution dans son discours politique, d'ailleurs. Mais il n'empêche qu'il reste ça dans l'école. Et puis pour le lycée, il restait que, ça, pour le coup, la vocation du lycée, c'était de former l'élite, et donc de sélectionner, d'identifier et de former l'élite. Donc forcément, ce lycée, il a vocation à sélectionner, il reste. Parce qu'en fait, son fonctionnement n'a pas été radicalement modifié. Et donc, du coup ça reste une institution qui, dans ses modalités de fonctionnement, est construite pour en laisser de côté au fur et à mesure, pour sélectionner, même si elle dit, l'institution, qu'elle veut que tout le monde aille jusqu'au baccalauréat. Mais on a triché avec cette vieille expression qui correspondait au discours sur le lycée du début du XXe siècle. Je ne sais plus qui disait ça, mais il disait qu'en fait, la question n'était pas de savoir si ça produisait des inégalités ou s'il y a participé. La question était de savoir si les inégalités que produisait le système éducatif étaient des inégalités justes ou pas justes. Hein. Ouais. Donc c'est une formule intéressante sur ce volet.
Ça voudrait dire que le lycée a loupé la massification, alors, d'une certaine manière.
Ça veut dire que mais c'est presque un cliché de dire ça. Hein, le lycée a participé à la massification sans jamais participer véritablement à la démocratisation. Clairement, oui. Oui,
dès le début, moi, il me semble que j'avais vu une étude qui analysé au niveau d'une classe, et je pense que c'était au niveau du primaire, mais je pense que c'est aussi valable dès la maternelle, que dans une classe, il y avait 20% d'enfants qui étaient bons, il y avait 60% de suiveurs et 20% à la traîne. Donc déjà au niveau d'école primaire. Et quand on parle de 70% d'une classe d'âge pour arriver au lycée, ça correspond un petit peu. Ça correspond pas tout à fait à ça, mais même dans les lycées, il y a les suiveurs et il y a les très bons, quoi.
Oui, mais de la même façon, cette répartition entre ceux qui doivent réussir, pas réussir, ceux qui peuvent réussir, elle est, enfin, on peut, les chiffres que vous évoquez, vous pensez à toute cette réflexion qui a été portée sur l'évaluation au travers de la question de la constante macabre. Hein. Toutes ces questions qui font que les acteurs eux-mêmes, y compris les acteurs qui, très généreusement, vont tenir un discours très progressiste, hein, d'ailleurs, sur la nécessité de transformer l'école, vont reproduire dans leur pratique et dans leur rapport aux apprentissages et à la forme scolaire ce qu'ils dénoncent hein, par ailleurs. C'est ça qui rend les choses compliquées. Je pense que vous disiez tout à l'heure, il y a que les micro-lycées, on ne peut pas comme ça les multiplier. À souhait, c'est que trouver des enseignants, mobiliser des enseignants qui sont capables d'aller dans une approche alternative comme celle qui est portée par les micro-lycées. Ça nécessite deux choses. D'abord, ça nécessite un changement d'identité professionnelle. Et c'est peut-être ce qui est le plus dur. On dit toujours, il faut former les enseignants au contenu, à la pédagogie. Il y a la question de l'identité professionnelle. Qu'est-ce qui fait ma légitimité? Qu'est-ce qui fait? Quel rapport j'ai aux jeunes qui sont là? Et quand le jeune échoue, quelle est ma part de responsabilité? Et est-ce que je vais procéder en faisant des contrôles et puis ensuite en faisant des moyennes qui vont me permettre de dire quoi? Qui vont me permettre de rentrer dormir tranquille chez moi? Ça sert à ça, une moyenne, hein? Ça sert à l'enseignant à rentrer et à pouvoir dormir en se disant « Non, c'est le résultat d'un calcul. Moi, je ne suis pas engagé dans cette affaire-là. L'évaluation au micro-lycée, on la pratique de façon très différente. On ne s'interdit pas du tout de mettre des notes. Hein. Il y a des productions pour lesquelles les élèves sont notés, bien entendu, les jeunes sont notés, mais on ne se sert jamais de ces notes pour faire des moyennes. Jamais. L'école, c'est quand même un lieu très particulier. L'école, c'est avant qu'on ait des écoles, on formait les uns et les autres dans la vie réelle. Ça avait un vrai problème, c'est que les conséquences, pour le coup, des défaillances au moment de l'apprentissage provoquaient un certain nombre de difficultés. Donc on s'est dit, tiens, on va créer un lieu spécial où on peut se tromper, un lieu pour se tromper. Ça s'appelle l'école. Donc l'école, c'est un lieu qui est fait pour se tromper. Donc la nature hein, est faite pour provoquer l'erreur, pour permettre l'apprentissage et l'accompagnement au moment de l'apprentissage. Évidemment, si l'erreur, quand elle est produite, elle rentre dans une note qui elle-même est prise en compte dans la moyenne, on est en train de tuer l'école. On est en train de rendre l'apprentissage impossible. Or, pour reprendre même les mots de Bachelard, hein, un savoir constitué n'est rien d'autre qu'une erreur rectifiée. Donc, s'il n'y a pas d'erreur et s'il n'y a pas d'accompagnement dans l'erreur pour analyser l'erreur, il n'y aura pas d'apprentissage. Donc, cette question, elle est véritablement... Donc oui, il y a la question de la... Puis après, ceci étant, il ne faut pas sous-estimer non plus ce que nous demandent les jeunes quand ils ont été en difficulté dans l'école. Alors, ceux qui ont décroché, mais ceux qui sont en difficulté. Ils sont ambigus hein, sur la demande qu'ils ont. Parce qu'à la fois, ils veulent une autre école, une très différente, une qui les fera pas échouer, une qui les accompagnera. Ils veulent une école qui réussit là où elle a échoué, hein, en gros. Mais en même temps, ils veulent la même. C'est qu'en fait, il y a une espèce de volonté de participer à la norme aussi. Parce que participer à la norme, c'est... Voilà,
c'est être inclus.
Et donc, c'est compliqué parce qu'il faut sans arrêt jouer avec ça. Hein, oui. Avec la demande de normes hein, et à la fois la volonté de sortir de la norme et d'être considéré d'une autre façon. Le pari des structures de retour à l'école, de celle de Reims d'ailleurs, enfin, d'un certain nombre comme celle de Reims, c'est un... Il y a deux familles de structures de retour à l'école. Il y a celles qui sont plus proches des origines autogestionnaires qui, elles, misent beaucoup sur le collectif, sur le fonctionnement démocratique, sur le groupe, et puis des structures comme celle de Reims et d'autres hein, qui accueillent plus de jeunes qui sont en difficulté psychique. Qui sont en difficulté dans les relations avec les pairs et pour lesquels on mise beaucoup moins sur le groupe et sur le collectif, mais beaucoup plus sur la relation de confiance entre un adulte et puis les jeunes. Hein. Et donc là, on a aussi hein, une autre approche. C'est pour ça que je dis très souvent, le micro-lycée de Reims, avec la famille à laquelle il appartient, c'est une structure qui propose de renoncer au lycée pour tous pour construire un lycée pour chacun. Hein. Et donc, une approche différente. On comprend très vite quand on est parent ce qu'est l'égalité républicaine à l'école quand on emmène son premier enfant à l'école et qu'il y a deux classes de petits et que on voit bien qu'il y en a une qui fonctionne plutôt bien avec un enseignant très engagé et une qui fonctionne moins bien. Et on a tout de suite compris ce qu'était l'égalité républicaine. Hein. Il y a un enseignant devant chaque classe et donc il y a l'égalité. Hein. Le problème, c'est que l'égalité républicaine est un objectif auquel tout le monde peut adhérer. Mais dans la réalité, évidemment, c'est une illusion.
Pas, oui, hein. Bien sûr.
C'est une pure illusion. Il n'y a pas d'égalité.
Dès l'arrivée des gamins à l'école maternelle.
Hein. Dès l'arrivée à l'école maternelle, alors déjà les conditions dans lesquelles ils ont grandi avant créent une inégalité, mais même là, à l'arrivée. Bon. Donc en fait, oui, non, c'est incompatible, on est d'accord. La question du mouvement, elle est. Enfin,
il y a du mouvement.
Du mouvement
de l'affectation des postes.
Donc non, bien sûr qu'il faut que, si on veut qu'une école marche, il faut que chaque enseignant puisse dire moi, j'ai envie de travailler en référence à ce projet-là. Et je veux m'engager dans ce projet-là, et que l'équipe aussi puisse donner son avis sur la possibilité de travailler avec celui qui arrive. Voilà, je ne sais pas, c'est pas très...
Je n'ai pas passé d'examen.
T'es sûr? T'es sûr? Tous les examens se disent pas, mais...
Oui, c'est pas forcément des examens.
C'est pas forcément des examens, non? Mais sur cette... donc oui, il y a quelques conditions. Moi, je suis attenté. Enfin, il y en a plusieurs, hein, des conditions pour que ça puisse marcher. Mais l'autre, par exemple, c'est qu'il faut qu'on arrête avec cette idée que l'enseignement se traduit par un nombre d'heures dans chacune des disciplines. Mm-hmm. Bon. D'abord parce que cette répartition disciplinaire, on ne sait pas trop d'où elle sort. Puis ensuite, il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés ensemble, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés tout seuls. Et il faut qu'on sorte de ça. Donc, les modalités de définition des services, ce qu'on appelle très techniquement l'ORS pour l'enseignant, l'obligation réglementaire de service, ce calcul du service de l'enseignant, les modalités de nomination et d'affectation, les modalités de calcul de l'horaire hebdomadaire d'enseignement sont des obstacles à la mise en place d'un lycée qui serait véritablement un lycée pour chacun et qui donnerait le maximum de chances à chacun en vrai.
Mais au niveau du lycée, les nominations sont régionales, nationales,
académiques,
l'Académie de Reims. Donc les volontaires de votre lycée sont choisis dans l'Académie.
Ce ne sont forcément des enseignants d'Académie.
Que des gens de l'Académie, oui. De Reims.
Oui. En fait, parce qu'il y a 19 collègues hein, qui interviennent sur le micro-lycée à Reims. Sur les 19, il n'y en a que 5 qui sont à temps plein. Les autres sont en temps partagé. Oui. De toute façon, ce sont des enseignants et moi, en gros. Hein,
oui,
parce
forcément.
Que quand on partage son service entre un établissement d'origine oui. et puis le micro-lycée, si on est sur mm-hmm. deux villes différentes, ça devient quand même très, très compliqué. Mm. Hein.
Et vous ne fonctionnez pas par classe, alors ?
Alors, il y a des groupes de jeunes qui sont sur des projets qui se ressemblent. On n'appelle pas ça des classes, de la même façon qu'au micro-lycée, depuis la sortie du confinement, il n'y a plus de cours. Il y a des regroupements, il n'y a plus de cours. On peut dire deux mots sur les solutions qu'on avait envisagées là-dessus, mais il y a tout de même des groupes de référence. Hein, mais des groupes de référence qui... tous ceux qui, par exemple, sont sur un parcours terminal et qui préparent un baccalauréat général vont se retrouver dans un groupe ou dans l'autre. Sachant que tout ça est un peu dans une situation... On est dans des situations dans les structures autour de l'école où quand même les jeunes ne parviennent pas à être là tout le temps. Hein. Et donc on peut avoir parfois des séquences sur lesquelles on a des jeunes cette semaine avec aucun qui était là la semaine d'avant hein, et inversement, voire parfois avec zéro jeune hein, qui peuvent être là sur telle ou telle séquence avec des groupes qui vont osciller entre, quand on est sur 15, 16, 17 jeunes, on est sur le maximum de ce qu'on met dans une salle avec un professeur et puis qui peuvent aller jusqu'à un ou deux selon les spécialités, mmh. selon les situations et les problèmes des uns et des autres. Donc on ne fonctionne pas... Voilà,
Alors d'où l'intérêt du travail en distanciel, je suppose, non ?
Ouais. Alors le distanciel...
Qui laisse aux élèves ouais. le temps d'appréhender ouais. les cours, les exercices, etc. Mmh. À leur rythme.
Ouais. On ne l'avait pas autant formalisé avant l'expérience du confinement. L'expérience du confinement a été très surprenante au micro-lycée, puisque le jour même où on a annoncé qu'on fermait le micro-lycée le lendemain, Nous, on s'est dit, ça y est, on va les perdre, quoi. Hein, pour le coup, on ne va pas les retrouver. Eux-mêmes étaient en grande détresse. Hein, une grosse partie était en très, très grande détresse. En se disant, voilà, cette entreprise, cet effort que j'ai fait, cette démarche extraordinaire que j'ai faite, va se terminer là avec ce confinement. On a eu la surprise de n'en perdre aucun pendant le confinement. Hein. Alors, les choix qu'on a fait, ça a été de proposer du travail sur une plateforme. On a très, très peu utilisé le cours en visio. On a beaucoup utilisé le travail proposé, didactisé, construit, et on a associé ce travail construit avec cette idée que chaque jeune devait avoir un contact personnalisé avec l'un des membres de l'équipe chaque jour. Et donc on a installé cette pratique-là. Et on s'est rendu compte que, c'est en compte de plusieurs choses. D'abord, c'est qu'à la sortie du confinement, quand on a posé la question à certains jeunes de dire « mais ça y est, tu peux à nouveau sortir ?» Et des jeunes qui nous répondaient « mais sortir, pourquoi ?» Hein, d'abord, on découvrait quelque chose. Hein. Et puis, on découvrait d'autres jeunes qui nous disaient « mais enfin, on ne pouvait pas rester un peu comme ça, parce que j'ai jamais travaillé autant que ça, j'ai jamais appris autant que ça, parce que je pouvais travailler la nuit, et surtout parce que je mettais pas toute mon énergie pour sortir de chez moi, pour prendre le bus, pour rentrer dans le lycée, pour croiser les autres. Mmh. Et donc on a décidé, à la sortie du confinement, d'hybrider définitivement l'offre de formation. Donc l'offre de formation, elle est hybridée. Depuis ce temps-là, hein, et on n'a jamais retouché à ça. Ça ne veut pas dire qu'on s'est passé du présentiel, ça veut dire qu'on a transformé le présentiel en deux composantes. Parce qu'en fait, quand on dit hybridé partout, on pense toujours distanciel-présentiel. En fait, ce n'est pas le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, du point de vue du décrochage, c'est synchrone-asynchrone. Est-ce que tout le monde doit être là au même moment pour faire quelque chose ensemble, ou est-ce qu'on peut le faire au moment où on peut, au moment où on est disponible, au moment où c'est possible? La réponse hein, à cette question, elle est vraiment essentielle sur la question du un enseignement qui rend indispensable la présence synchrone est un enseignement, moi, que je caractérise, que j'ai appelé hein, dans plusieurs écrits comme une fabrique de l'irrémédiable. Si j'ai pas pu être là, c'est foutu. Et donc, c'est une fabrique. Donc, la question, c'est comment on fait pour déconstruire cette fabrique de l'irrémédiable. Et donc, cette question, c'est. Et en même temps, il y a des jeunes qui ont besoin d'une part de présentiel, d'une part d'interaction avec les autres, d'une part d'interaction avec le professeur, qui ont besoin qu'on reprenne, qu'on synthétise, etc. Et donc, la question, c'est de croiser. Et donc, on a installé un dispositif dans lequel il y a, pour chaque discipline, une heure ou une heure et demie de regroupement par semaine, mais pas plus. Chaque discipline a une heure ou une heure et demie de regroupement par semaine. On y fait de la synthèse, on revient sur les travaux qui avaient été faits et l'activité qui est en ligne, parce qu'ils ont chaque jour un travail à déposer sur la plateforme. Chaque jour. Donc, qui couvre toutes les disciplines. Et ben, ce travail précède le regroupement. C'est-à-dire que le regroupement qui traite de ces contenus va être précédé par le travail qui est à faire par le jeune sur la plateforme. Et dans cette situation-là, il y a une consigne hein, qui a été un peu difficile d'ailleurs hein, à décliner pour les enseignants, c'est aucun contenu exigible pour la réussite à l'examen ne peut être traité en situation présentielle s'il ne l'a pas été aussi dans les situations de travail à la maison. Hein. Parce que sinon, effectivement, on refabrique de l'irrémédiable. Donc c'est une question, enfin c'est compliqué, hein, mais c'est compliqué, mais en même temps, c'est un exercice vivifiant qui oblige à penser les choses autrement, à s'appuyer sur ce qui est essentiel, à considérer que dans un programme scolaire, ou plutôt à considérer qu'un programme scolaire, on peut le traiter comme on visite un pays. Vous savez, pour visiter un pays, si j'ai 30 jours, j'ai le choix. Hein. Je fais un circuit et je m'arrête 30 fois et puis j'ai fait le tour. Hein. Ou alors, je choisis 2-3 endroits qui vont être suffisamment emblématiques. Si je les choisis bien, et si je prépare bien ce que j'y fais, eh bien, je connais bien mieux le pays que si j'avais fait le tour. Eh bien, on peut considérer qu'un programme scolaire peut se traiter de la même façon. Il y a des contenus éclairants, il y a des contenus structurants.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Radio Primitive. Engagé pour...